autant. Et puis, si j'ai bien compris, quelques petits travaux urbains. Merci d'être venu, de ne pas vous être laissé impressionner donc, par les difficultés d'accès. Comme vous le savez, je ne suis pas poitevin, je suis d'Auxerre, je viens d'Auxerre et je suis vraiment épaté par votre fidélité et le fait que vous veniez aussi nombreux pour poursuivre la réflexion sur la ville de demain, qui est l'intitulé du cycle dans lequel s'insère cette conférence. C'est la troisième conférence de ce cycle qui a été initié par le Conseil de développement responsable de l'agglomération de Poitiers, représenté ici par Virginie Offroy et puis son président James Renaud. Son président qui, comme vous le savez, pour les habitués, interviendra à la toute fin et vous donnera quelques mots d'explication sur cette feuille qui a été posée sur vos fauteuils. Je ne vous en dis pas plus. D'ailleurs, je ne sais pas du tout la signification de cela. Donc, je compte sur James Renaud pour vous éclairer. Donc, un cycle initié par le Conseil de développement est préparé avec le soutien de l'Espace Mendès France, représenté ici par Anne Bonnefoy, que je tiens à saluer vivement pour son implication dans la préparation de ce cycle. Alors, c'est la troisième séance. Très bref rappel des épisodes pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'avoir pu se rendre y assister. Nous avons, pour les besoins de ce cycle, qui se propose de relever un défi, puisqu'il s'agit de réfléchir sur la cohésion sociale, son devenir à l'échelle de la ville. À l'échelle de la ville, qu'est-ce que la ville et des collectivités locales peuvent faire pour contribuer à renouveler, à conforter cette cohésion sociale avec, bien évidemment, le soutien de l'État-providence. Nous avons commencé par une première séance sur les adolescents, aussi curieux que ça puisse être, mais avec l'idée de montrer que si on voulait maintenir, préserver la cohésion sociale, peut-être fallait-il commencer à éviter de segmenter notre société, notre population par tranches d'âge, mais au contraire, jeter des passerelles entre ces différentes tranches d'âge, en impliquant les populations dites inactives, c'est-à-dire les retraités, mais aussi ceux qui ne sont pas encore entrés sur le marché de l'emploi, et en particulier les adolescents. Et bien, c'était l'objet de cette première conférence avec Edith Orgon et Guillaume Machet, qui étaient intervenus à la lumière d'un gros travail, d'une démarche prospective initiée pour les besoins du Val-de-Marne, qui se préoccupait de savoir comment impliquer ces adolescents dans les politiques urbaines, initiative que j'ai trouvée, que nous avons tous trouvé très intéressante. Ensuite, nous avons eu la visite, Catherine de Vinden, de Robert Castel, oui, qui aurait dû inaugurer ce cycle, puisqu'il a remis en perspective historique la notion de cohésion sociale en rappelant comment le contexte du 19e siècle avait favorisé son éclosion et comment cette cohésion sociale incarnée par l'État-providence avait été un peu bousculée en crise du fait, non pas du retrait de l'État-providence, mais de ses difficultés à prendre en charge toutes ses responsabilités. Alors, je vous laisse découvrir le thème des deux dernières conférences, grâce au programme qui doit être encore en circulation, hein, me dit Virginie Offroy, me le confirme. Ce soir, nous vous proposons d'examiner les défis que représentent les nouvelles formes de migration, d'immigration, au regard de la cohésion sociale. Comment maintenir, préserver une cohésion sociale avec des populations qui non seulement viennent de pays différents, mais entretiennent des relations lâches, c'est-à-dire souples, entre leur pays d'accueil et leur pays d'origine. Comment on compose une société avec ces populations qui constituent une richesse, mais comment faire du lien social avec des populations d'origine différente? La question n'est pas nouvelle, mais elle se pose aujourd'hui plus que jamais du fait de la mondialisation. La formule peut vous paraître étrange, mais c'est une formule où on pourrait dire globalisation des migrations. Qu'est-ce que ça signifie? Je laisserai le soin à notre invité de nous le dire. Notre invité, vous l'avez donc compris, c'est Catherine Vitol de Vinden, que je suis très heureux d'accueillir. dire, parce que ça fait des années que je suis vos travaux, et vous êtes directrice, alors j'ai vu directeur, on dit directrice ?
Directrice de recherche au CNRS.
Voilà, ou alors on dit directeur en passant très vite, de recherche au CNRS, du CNRS au CERI. Voilà. Alors, le CERI, le Centre d'études et de recherche internationale. De Sciences Po, et qui est un centre de recherche très intéressant parce qu'il a des approches des relations pluridisciplinaires, hein, des relations internationales, en mobilisant des juristes et des politologues comme vous, car vous êtes politologue et juriste de formation, mais y compris des anthropologues, des sociologues, et d'où des approches extrêmement stimulantes. Vous êtes spécialiste non seulement des migrations, mais des politiques migratoires et des défis que posent les nouveaux visages des migrants à ces politiques migratoires. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Je citerai le dernier, mais j'y reviendrai en toute fin pour vous inviter à vous l'arracher ou à vous le consulter dans votre bibliothèque. La question migratoire au XXIe siècle. Aux presses de Sciences Po, et puis cet atlas mondial des migrations.
Donc, extrait des cartes.
Voilà. Alors, voilà pourquoi je le signalais, c'est que je pense que vous en avez certaines cartes, dont celle-ci est tirée de cet atlas. Trêve de présentation, vous disposez de 49 minutes et 59 secondes pour nous faire découvrir les nouveaux visages des migrants et puis les questions qu'ils posent aux politiques publiques en matière migratoire. Ça vous va ?
Oui, tout à fait. Merci beaucoup en tous les cas de cet accueil nombreux. Et je vais essayer de traiter, c'est-à-dire de croiser l'approche mondialisation des migrations dont je vais vous présenter quelques éléments à travers ces cartes, avec les différents aspects de la cohésion sociale qui sont questionnés par ces migrations à travers à la fois les politiques migratoires et puis les situations migratoires. Alors tout d'abord, on est entré aujourd'hui, depuis les années 1980-1990, dans la deuxième grande vague migratoire mondiale, la première se situant entre les années 1880 et 1930. On a eu une très grande vague migratoire à l'époque, mais c'était l'inverse de ce qu'on a aujourd'hui, puisque c'était plutôt l'Europe qui partait pour les colonisations, pour le peuplement de nouvelles terres, peu habités, États-Unis, Canada, Australie, continent africain, quelques pays asiatiques aussi, à la faveur d'ailleurs du changement des moyens de transport à l'époque. Le passage du bateau à voile au bateau à vapeur a considérablement accru la vague migratoire de la fin du 19e siècle, parce qu'il fallait remplir les bateaux, donc il fallait rentabiliser ces fameux bateaux à vapeur. Il y avait toute une publicité, comme on dirait aujourd'hui, pour le voyage migratoire, ce qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Dans un contexte où il était, qui était un peu l'inverse de celui qu'on a aujourd'hui, puisque la plupart des pays de départ étaient des pays puissants, c'était les pays européens, alors que les pays d'accueil étaient des pays faibles sur la scène internationale. Et autre caractéristique, c'est qu'il était assez difficile de sortir de chez soi, parce que beaucoup de pays maintenaient derrière des frontières leur population, qui considéraient comme une richesse pas seulement démographique, mais agricole, militaire, etc. Et alors qu'il était facile d'entrer à peu près partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les pays d'accueil sont des pays puissants, c'est eux qui définissent les politiques migratoires à l'échelle mondiale, les pays de départ sont des pays plutôt faibles, sauf quelques grands pays émergents comme la Chine et l'Inde. Il est devenu, depuis les années 90, et notamment depuis la chute du mur de Berlin, facile de sortir de chez soi, mais aussi dans beaucoup de pays du tiers-monde où on peut avoir un passeport, ce qui n'était pas facile autrefois. Et en revanche, il est devenu très difficile d'entrer quelque part. Donc le système s'est complètement inversé dans cette deuxième grande vague migratoire par rapport à la première du 19e siècle. Autre caractéristique de ces migrations, c'est qu'elles sont mondialisées. Aujourd'hui, presque toutes les régions du monde sont concernées par la migration à cause essentiellement des inégalités du développement humain qui sont représentées ici par des couleurs. Donc en rouge, là où il y a les plus grandes inégalités, ce schéma est fait à partir de trois indices qui sont d'une part la longévité, c'est-à-dire l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Et si on croise ces trois critères, qui ont d'ailleurs été proposés par Amartya Sen, prix Nobel d'économie, pour mesurer quantitativement à partir d'indices le développement humain, on a cette carte qui montre notamment l'Afrique subsaharienne parmi les régions les plus pauvres du monde, et puis les pays riches, Europe, Amérique du Nord, Australie. Les hommes ont toujours bougé vers là où il y avait le plus d'opportunités, ça fait partie de l'histoire du monde, hein, ils ont toujours migré, et donc là où il y a de grandes inégalités, il y a de grandes mobilités, même si ce ne sont pas les plus pauvres qui partent, et même si ce n'est pas nécessairement les régions à plus grande densité démographique qui sont les plus grandes régions de départ, parce que pour ce qu'on va voir, c'est que pour qu'il y ait migration, il faut qu'il y ait des réseaux de liens transnationaux qui, d'une certaine façon, connectent les migrants vers des régions de destination. Alors, très rapidement, donc, ça donne une idée de la grande mobilité mondiale dans laquelle on est entré. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un phénomène global, mais aussi c'est un phénomène qui est paradoxalement régionalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une région du monde donnée, par exemple si on prend le continent américain, il y a plus de migrants du continent américain qui viennent du continent américain que de migrants qui viennent d'ailleurs. Alors qu'au XIXe siècle, la plupart des migrants du continent américain, nord et sud, ils venaient d'Europe pour l'essentiel, ou un petit peu d'Asie, sur la côte ouest. Si on regarde une autre région migratoire, l'Europe avec ses voisins du sud de la Méditerranée, la plupart des migrants viennent de cette région. Donc là aussi, on est dans un système régional, même si d'autres flux mondiaux, comme les Chinois, les Indiens, sont venus s'y ajouter. Si on regarde le monde russe, c'est-à-dire l'ex-URSS, la plupart des migrants viennent de cette région-là, par rapport à ceux qui viennent d'ailleurs. C'est vrai aussi pour l'Asie du Sud-Est. La plupart des migrants en Asie du Sud-Est sont des migrants qui viennent d'Asie du Sud-Est. C'est vrai aussi pour le continent africain, donc qui est dans une sorte de double attraction vers le Maghreb, qui est un pôle de transit, et vers l'Afrique du Sud. Et puis, migration sud-sud, pays du Golfe, qui attire les gens de la rive sud de la Méditerranée jusqu'au Pakistan et dans quelques pays asiatiques. Donc, mondialisation et régionalisation des flux migratoires, dans un contexte où finalement les migrants internationaux ne sont que 3% de la population mondiale. On a à peu près 200 millions, un peu plus de 200 millions de migrants internationaux, 220 très exactement, 740 millions de migrants internes. Donc on a un milliard de personnes sur la planète qui sont en situation de mobilité. Mais les trois quarts sont dans une mobilité interne et les autres sont des migrants internationaux, c'est-à-dire qui traversent des frontières pour vivre ailleurs. Ces migrants internationaux dont on parlera ce soir, dont on ne fera que parler ce soir, je ne parlerai pas des migrants internes, sauf s'il y a des questions, ces migrants internationaux se répartissent en plusieurs régions du monde. On a des migrations sud-nord. En fait, on ne fait que parler des migrations sud-nord qui ne représentent pourtant que le tiers des migrants internationaux. Il y en a à peu près 63 millions aujourd'hui. On a presque autant de migrations sud-sud, dont on parle très peu. On est en train d'en parler avec la Libye, puisqu'on s'est aperçu que la Libye était un grand pays d'immigration, et donc on a vu tous les migrants qui repartaient chez eux à l'occasion de la crise. Mais c'est un exemple. Mais les pays du Golfe, beaucoup de pays du monde sont des exemples d'attraction de migration sud-sud. On a des migrations nord-nord aussi, des gens qui vont d'Europe en Amérique du Nord, par exemple, ou dans d'autres régions du monde. Beaucoup de migrations est-ouest sont des migrations nord-nord, 50 millions. Et puis on a des migrations nord-sud aussi qui se développent à la faveur du tourisme international, mais aussi de l'habitude croissante des retraités ou des gens qui travaillent dans le e-business, comme on dit, sur l'ordinateur, de s'installer au soleil dans des pays où ils trouvent des services, une certaine qualité de vie, du soleil et donc un coût de la vie moins cher. Donc en fait, ces caractéristiques déterminent très largement les situations d'accueil et de cohésion sociale. Et tout à l'heure, j'essaierai de montrer les migrants qui entrent dans ces différentes catégories sud-nord, sud-sud, nord-nord, nord-sud, pour montrer qu'ils posent dans les différents pays d'accueil des questions de cohésion sociale très différentes. L'Europe est devenue la plus grande région migratoire au monde aujourd'hui. Et ça, c'est une chose qui est très mal acceptée par une partie de l'opinion publique parce qu'elle a longtemps été une terre de départ. On voit que les grandes terres de départ, ce qu'on appelait le Nouveau Monde, Nouvelle-Zélande, Australie, Argentine, Canada, États-Unis, ont connu au cours du XXe siècle plutôt un déclin des flux migratoires, un tassement, alors que l'Europe n'a cessé de connaître une croissance de la migration, notamment depuis ces 30 dernières années, où l'Europe du Sud, qui était une région de départ, est devenue essentiellement une région d'accueil. Alors, les facteurs sont à peu près les mêmes dans le monde entier, c'est-à-dire que ces migrations sont pas seulement mondialisées, mais dans un autre livre que Sylvain n'a pas présenté, je dis qu'il s'agit d'une globalisation, parce que les facteurs sont les mêmes à l'échelle de la planète, et on retrouve à peu près toujours les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Croissance démographique d'un côté, vieillissement démographique de l'autre, c'est un sujet de plus en plus actuel, puisque les prévisions démographiques montrent qu'on aura autour de 2 milliards d'Africains à la fin du siècle, dans la deuxième partie du 21e siècle, que les Chinois vont se tasser autour de 1,3 milliard, que l'Inde deviendra le pays le plus peuplé du monde avec 1,6 milliard d'habitants, et que l'Europe continuera à vieillir compte tenu de son profil démographique. Cette situation est devenue un sujet stratégique. Pendant longtemps, on ne s'intéressait pas trop à la démographie, mais depuis ces 20 dernières années, on a eu un peu un effet choc avec le rapport des Nations Unies, du département de la population, qui a parlé de cette entrée dans le vieillissement de la plupart des pays européens et de la Russie et du Japon. Alors qu'au sud, on a soit des pays qui sont en jaune sur la carte, qui sont dans des situations de transition démographique, les pays qui sont en situation de transition démographique, qui se caractérisent par moins de naissances et aussi moins de décès jeunes, et une population qui, pour l'instant, dans les pays, par exemple, de la rive sud de la Méditerranée, est très disponible pour la migration parce qu'ils appartiennent à des classes d'âge nombreuses pour s'occuper des parents et ils ont peu d'enfants. Ils ont un nombre d'enfants qui voisine celui des Européens, 2,5 enfants par femme en moyenne, sauf pour l'Égypte et les Palestiniens. Et donc, on est dans cette situation qui rend très disponibles les gens pour la migration, alors que ça ne se reproduira plus à la génération suivante, puisqu'ils seront moins nombreux pour s'occuper des parents et pour occuper des emplois dans l'économie. En revanche, la transition démographique, on ne la trouve pas au sud, notamment dans l'Afrique subsaharienne, dans quelques pays du Proche et du Moyen-Orient surtout, où on n'a pas encore véritablement de transition démographique, et ça va être un enjeu très important. L'âge médian, l'âge qui sépare en deux catégories égales en nombre la population d'un pays, en Europe est de 40 ans. Au Maghreb, il est de 25 ans. 50% de la population a moins de 25 ans. En Afrique subsaharienne, il est de 19 ans. Donc on voit le décrochage démographique. Également les inégalités de richesse, bien sûr, et là où il y a des fractures économiques, il y a de la migration. Les gens voient la télévision, les médias ont un rôle très important dans la définition du projet migratoire, et puis pas seulement la télévision, l'internet, téléphone portable, les transferts de fonds visibles, 330 milliards de dollars en 2008 envoyés par les migrants dans leur pays d'origine, trois fois l'aide publique au développement. Et donc on voit très bien, d'ailleurs ne serait-ce qu'avec ces couleurs, là où il y a des grandes fractures de richesse et de pauvreté, la frontière entre les États-Unis et le Mexique, la Méditerranée, l'Europe des 27 et ses voisins, et les pays asiatiques émergents et les autres. Et donc on a on a une très grande mobilité. Parce que précisément, il y a souvent des liens historiques entre les endroits où il y a de la pauvreté, mais les endroits aussi où il y a de la richesse proche, des liens parfois coloniaux, des proximités géographiques, des liens migratoires. Donc on est dans un système qui finalement favorise cette mobilité du côté du départ, même si l'accueil est très difficile. Ensuite, on a eu des réfugiés. On a eu une grande période d'arrivée de réfugiés depuis ces 30 dernières années, avec les crises, la fin des crises d'Amérique latine, la fin des crises d'Asie du Sud-Est, fin du conflit du Vietnam, mais surtout des conflits en Afrique subsaharienne, les Grands Lacs, le Darfour, la crise algérienne, en Europe, l'ex-Yougoslavie, la question kurde, également la Corne de l'Afrique avec l'Érythrée, la Somalie et puis quelques autres conflits de proximité, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Afghanistan, record mondial des départs, 6 millions de personnes ont quitté l'Afghanistan depuis le début de l'invasion soviétique à la fin des années 70, et puis également l'Irak qui a provoqué 4 millions de départs. Les pays d'accueil sont souvent des pays voisins, des pays du tiers-monde, contrairement à ce qu'on pense. Le record mondial, c'est en termes de stock, c'est-à-dire si on additionne sur 20 ans tous ceux qui ont été accueillis, c'est l'Iran qui a accueilli 6 millions de personnes, compte tenu de sa proximité avec des zones de conflit, conflit kurde, l'Afghanistan, l'Irak, également le Pakistan, qui a accueilli l'essentiel des déplacés d'Afghanistan. Et puis aussi la Syrie, aujourd'hui, avec la crise irakienne, la Turquie, qui est devenue un pays d'accueil tout en restant un pays de départ et de transit. Et puis, bien sûr, l'Europe, qui a eu son lot de réfugiés, notamment dans les années 90, avec notamment l'Allemagne, qui est le plus grand pays migratoire en Europe en termes de chiffres et pour l'accueil des réfugiés. Autre cause, l'économie du voyage, l'économie de la frontière. Comme les frontières sont fermées ou semi-ouvertes pour ceux qui tentent leur chance, les frontières n'étant ouvertes que pour les familles, pour les réfugiés, pour quelques très qualifiés, en fait, une économie du voyage s'est installée et ça donne tous ces moyens de passage divers qui sillonnent le monde. Également, la diasporisation des migrations, c'est-à-dire des migrations qui sont reliées entre elles à partir d'un pays de départ en fonction de tous les réseaux transnationaux qu'elles ont construits entre elles, c'est-à-dire des liens qui peuvent être associatifs, matrimoniaux, économiques, construits par une même nationalité dans différents pays. Et aujourd'hui, le mode d'installation le plus fréquent de ces migrants, c'est la quasi-diaspora, c'est-à-dire un groupe, par exemple, en Europe, les Turcs ou les Marocains. Ils sont dans plusieurs pays et ils tissent entre ces différents pays des liens migratoires forts, souvent d'ailleurs entretenus de plus en plus par les pays de départ, qui sont aussi un facteur de mobilité accrue pour ceux qui veulent partir. Donc les deux plus grandes diasporas du monde, ce sont les Indiens, 30 millions dans le monde, mais surtout, comme je disais, régionalisés dans la région d'Asie du Sud-Est et de la partie orientale de l'Afrique. Et puis les Chinois, 50 millions dans le monde, surtout en Asie du Sud-Est, donc, et puis bien sûr dans le monde entier. Et la plupart des Chinois qui se sont installés en Europe sont le fruit d'une migration récente qui date d'il y a 20 à 25 ans. Et les Roms aussi, qui sont redevenus mobiles depuis la chute du mur de Berlin, puisqu'ils ont commencé à sortir de leur pays, pour ceux qui étaient en Europe de l'Est et dans les Balkans. La migration étudiante, également de plus en plus mobile, même si pour l'instant il n'y a que 3% d'étudiants Erasmus pour l'Europe des 27. On voit que certains pays attirent plus qu'ils ne suscitent des départs. Pour d'autres, c'est l'inverse. Les Allemands partent volontiers. Les Espagnols attirent beaucoup d'étudiants. Mais à l'échelle mondiale, c'est l'Afrique qui part le plus pour faire des études à l'étranger, alors que les étudiants américains ou les étudiants russes sont assez peu mobiles à l'étranger. L'Europe, donc, là aussi, qui est au centre de quantité de flux migratoires divers, qui sont des flux qui viennent du sud, de l'est, mais aussi également des flux qui ne sont pas uniquement des flux de regroupement familial, des flux économiques, des flux de réfugiés ou d'étudiants, mais qui sont aussi, depuis la chute du mur de Berlin, des formes de désenchevêtrement des nationalités. Les gens qui étaient enfermés derrière des frontières bien verrouillés, ont commencé à sortir et ça a donné des migrations qu'on appelle ethniques, c'est-à-dire des gens qui reviennent vers un point de départ où ils avaient des compatriotes et qui sont revenus vers ces pays, des migrations de retour vers des pays de référence. Par exemple, 2 millions de migrants d'origine allemande qui étaient dans l'ex-URSS sont repartis en Allemagne. 350 000 Grecs de l'Est de la mer Noire sont repartis en Grèce, etc. On a eu des quantités de désenchevêtrement de nationalité. L'exemple le plus fort en nombre, ce sont ces fameux Aussiedler, des Allemands ethniques qui vivaient dans la Russie puis l'URSS et qui sont repartis en Allemagne. Et aujourd'hui, il en reste encore 1 million, les petits points verts, de la carte. Donc l'Allemagne, premier pays d'immigration, je ne vais pas m'y étendre. La France, qui était depuis longtemps le deuxième pays d'immigration en chiffres, mais qui est le plus ancien en Europe. La France a fait l'expérience de sa migration bien avant l'Allemagne, à la fin du 19e siècle, puisque la France manquait de main-d'œuvre. C'était un pays vieillissant jusqu'en 1945, avec une caractéristique des nouveaux arrivants, c'est qu'ils sont venus renforcer les concentrations d'étrangers qui étaient déjà là, parce que ça a été surtout de regroupement familial. Donc là où on avait une immigration essentiellement ouvrière ou agricole, on a eu un renforcement de la présence étrangère, notamment en Île-de-France. 40% des étrangers en France sont en Île-de-France, mais aussi Lorraine, Alsace, Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Corse, alors que l'Ouest a très peu de migrants. Et puis ce phénomène, un exemple de migration nord-sud, les British Land, comme on dit, les Anglais qui s'installent au soleil, peut-être dans la région de Poitiers, mais aussi en Bretagne, en Normandie, dans l'Aquitaine, ils sont fidèles aux anciennes possessions britanniques et suivis bien sûr de très près par les compagnies low cost, comme vous pouvez le voir, qui cherchent de la nature, des paysages, des vieilles maisons à retaper et un coût de vie moins cher qu'au Royaume-Uni. Je ne vais pas... voilà, donc là, c'est ce que je vous disais sur la France. Je ne vais pas trop m'y étendre, mais je vais passer à d'autres... Rapidement, à l'Europe du Sud, où on voit que ces pays qui étaient des pays de départ sont devenus en 25 ans des pays d'accueil. Et c'est une caractéristique aujourd'hui qui concerne pas seulement l'Europe du Sud, mais aussi les pays qui sont sur la rive sud de la Méditerranée. Aujourd'hui, le Maroc, par exemple, est devenu un pays de départ, d'accueil, de transit. C'est le cas aussi de la Libye, on commence à en parler. C'est vrai de l'Algérie, c'est vrai de la Tunisie, c'est vrai de quantité de pays comme le Mexique, qui sont aussi un pays de départ, d'accueil, de transit. Et la Turquie également, pays d'accueil, de départ, de transit. Donc les catégories de pays s'estompent, puisque les pays sont plusieurs choses à la fois. Même la France est devenue un pays de transit avec les Afghans qui veulent vivre au Royaume-Uni et qui traversent la France en essayant de subsister avant d'essayer de traverser la Manche. Les catégories de migrants aussi. Aujourd'hui, la distinction sociologique entre un réfugié, un demandeur d'asile, un migrant économique, quelqu'un qui vient pour le regroupement familial sont très ténues, elles sont très faibles en réalité, alors qu'il y a 50 ans, le réfugié qui venait d'Union soviétique n'avait rien à voir sociologiquement, ni comme origine géographique ou ethnique avec l'OS de chez Renault. Donc aujourd'hui, tout ça s'estompe parce que les gens quittent des pays pauvres et mal gouvernés et sont à la fois des gens qui parfois cherchent le refuge, ce qu'on appelle des migrations forcées, ou alors cherchent du travail. Souvent, ils cherchent les deux. De même que des gens qui viennent pour le regroupement familial. En France, on a trop tendance à opposer le regroupement familial et la migration de travail. C'est même la tendance actuelle de notre politique migratoire. En fait, ce sont des catégories qui s'estompent de plus en plus, puisque les gens qui viennent pour le regroupement familial viennent aussi pour travailler. Donc, flou dans les catégories, flou dans les catégories de migrants et de pays, et puis même entre la migration forcée et la migration volontaire, puisque, par exemple, tout à l'heure, je vous dirai un mot des réfugiés environnementaux, on verra certains anticipent la catastrophe environnementale et sont des migrants volontaires et pas toujours des migrants forcés. Dans l'Europe du Sud, malgré la communauté de destin de ces pays, si j'ose dire, qui sont devenus des pays d'accueil, on voit qu'il y a quand même des grandes différences en termes de migrants, parce que l'histoire et la géographie déterminent un peu les flux. Et les fameux liens, comme je disais tout à l'heure, les liens transnationaux. Le Portugal est caractérisé par sa dépendance à l'égard de son passé colonial en termes de migration. Et on voit qu'en vert, le Brésil, et en brun, les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne marquent beaucoup le paysage migratoire portugais. En Espagne, la proximité du Maroc, mais aussi les liens avec l'Amérique latine en vert montrent l'importance de ces flux migratoires. L'Espagne est devenue le deuxième pays d'immigration en Europe. Aujourd'hui, c'est 10% de sa population. Et tout ça, ça s'est passé en même pas 20 ans, en 10 ans, entre 90 et 2000. La Grèce, c'est un pays qui a moins de migrants, mais qui constitue 10% de sa population. Et le voisinage albanais est très marqué, 61% des migrants, mais aussi le voisinage avec toute l'Europe de l'Est, puisque la Grèce n'avait aucune frontière commune avec l'Union européenne en 2004. Donc des Bulgares, des Roumains, des Russes, des Géorgiens, des Polonais, des Ukrainiens, des Arméniens, etc., caractérisent cette population outre les Albanais. L'Italie, au contraire, c'est plutôt un exemple de saupoudrage, c'est-à-dire c'est une sorte de reflet de tout ce qui s'est passé depuis 25 ans dans le monde entier, qui sont venus comme migrants en Italie, des Albanais, des Marocains, des Roumains, des Chinois, des Ukrainiens, des Philippins, mais aussi des gens qui viennent d'Égypte, du Sénégal, du Sri Lanka, de Pologne, d'Équateur. Donc c'est un reflet de tout ce qui s'est passé dans le monde en termes de mobilité depuis ces 25 dernières années. Là, c'est la croissance de la migration en Espagne et une grande mobilité aussi dans le continent africain, donc surtout des migrations sud-sud. La plupart des migrants des pays pauvres, on a tendance à l'oublier, vont vers des pays voisins. Ils ne font pas de grands voyages internationaux. Ils vont se réfugier quand il y a des crises chez leurs voisins, comme on le voit ici sur cette carte. Et les crises politiques ont été un des facteurs essentiels de la mobilité à l'intérieur du continent africain, de même qu'elles ont eu pour conséquence de bloquer les frontières qui étaient plutôt ouvertes entre certains des pays et donc de reporter vers l'Europe des migrations qui ne pouvaient plus se faire dans la proximité. La Corne de l'Afrique aussi, qui est une grande région de départ avec toutes les crises qui ont sévi ces 20 dernières années, en se déportant plutôt vers les pays du Golfe. Autre exemple de migration sud-sud. Darfour, donc, à l'intérieur du Soudan, mais aussi se déportant vers le Tchad. Et puis, la plus grande zone de conflit au monde, le Proche et le Moyen-Orient, avec les flux de réfugiés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Israël, qui a fait son plein de migrants juifs voulant s'installer dans ce pays, puisque avec l'ouverture de l'ex-URSS, on a eu un afflux de migrants qui venaient de l'ex-URSS pour s'y installer. Et le continent américain, donc l'importance de la frontière américano-mexicaine comme zone de passage, avec un mur qui a commencé à être construit en 2006, et 11 millions environ de sans-papiers, c'est le record mondial aux États-Unis. C'est le mur le plus gardé, mais c'est aussi le mur le plus traversé. Et ces migrants font du Mexique un pays de transit, parce qu'ils ne viennent pas tous du Mexique, même si la plupart viennent du Mexique, ils viennent aussi d'Amérique centrale. Et l'hypothèse de la régionalisation des flux se vérifie, puisque sur le petit camembert, vous voyez que la moitié des flux aux États-Unis, plus de la moitié, viennent soit du Canada, soit d'Amérique latine. L'Amérique du Sud, c'est encore plus vrai, la régionalisation, puisque dans le passé, les flux venaient d'Europe, ils venaient d'Italie, de France, d'Espagne, du Portugal, et aujourd'hui, ils viennent des pays andins vers des pays d'accueil que sont le Brésil, l'Argentine, le Venezuela, le Chili. Asie du Sud-Est, là aussi, quelques géants démographiques qui sont les réserves de population du monde, Inde et Chine, mais aussi des grandes zones d'accueil comme le Japon, l'Australie, Singapour, le Sultanat de Brunei, Hong Kong, Taïwan, la Corée du Sud par exemple. Et donc, ça je ne vais pas en parler trop, simplement pour dire que les transferts de fonds des migrants sont trois fois l'aide publique au développement. Un aspect qui va nous concerner beaucoup plus, c'est l'urbanisation galopante de la planète et notamment des pays du Sud. Si on regarde le continent africain, en un siècle, il sera passé entre 1950 et 2050 de 70% de ruraux à 70% d'urbains. Donc c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres c'est une sorte de métropolisation du monde à laquelle on assiste, et très souvent la migration exode rural se traduit ensuite vers une migration d'exode international, puisque c'est dans les villes que se font les processus de décision, les réseaux, les offres de voyage et donc le point de départ pour la migration. Donc mégapolisation du monde, si on regarde les 25 villes les plus peuplées du monde, on voit qu'elles se situent en Asie, vous avez une petite carte qui les repère aussi, un petit peu moins des villes qui ont plus de 10 millions d'habitants, un petit peu moins dans les Amériques en vert, et puis ensuite en violet l'Europe au sens large, puisque j'ai inclus Istanbul et Moscou, et puis ensuite l'Afrique, mais l'Afrique, comme je vous dis, comptera sans doute beaucoup plus de villes, mégapoles, d'ici ces 30 dernières années. Ce qu'on voit aussi, c'est que ces villes sont pour beaucoup au bord de l'eau, et ça c'est tout à fait important pour notre sujet, parce que ces villes au bord de l'eau, qui sont des mégapoles, sont également menacées en cas de réchauffement climatique, surtout dans les pays pauvres où il n'y a pas beaucoup de politique de prévention. Et les villes qui sont au niveau de la mer sont particulièrement menacées par la hausse du niveau des mers, et quand il s'agit de mégapoles avec une très forte concentration de population pauvre, on peut s'attendre au pire. Par exemple, le delta du Gange, Dhaka, la capitale du Bangladesh, est particulièrement menacée par la fonte des glaciers de l'Himalaya, qui aurait des répercussions dramatiques sur les grands fleuves du subcontinent indien, et notamment sur le Gange qui se jette à ce niveau. Mais il y a d'autres facteurs de migration environnementale qui vont avoir des effets, d'autres facteurs d'environnement qui vont avoir des effets sur la migration, même si la plupart de ces migrations environnementales seront des migrations sud-sud, et notamment des migrations internes, pas nécessairement des migrations internationales. Ça veut pas dire que, ce qui veut dire que beaucoup ne viendront pas jusque chez nous. Si on regarde les facteurs de ces migrations environnementales, on voit qu'une partie d'entre elles sont liées au réchauffement climatique, mais pas toutes. On a bien sûr le dégel, actuelle, on a la fonte des glaciers continentaux, on a l'élévation du niveau des mers, la désertification, les inondations. On peut mettre ça sur le compte du réchauffement climatique, mais aussi la déforestation, par exemple, l'action de l'homme qui a un impact fort sur l'appauvrissement des sols et donc sur la migration climatique, la désertification de certaines régions du monde, et puis des phénomènes qui ont toujours existé. Les cyclones, les tornades, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, c'est aussi vieux que le monde. C'est, disons, ça fait partie de la Bible. Le tremblement de terre de Lisbonne, dont parlait Voltaire, c'était aussi une catastrophe environnementale. Le Dust Bowl des raisins de la colère de Steinbeck, c'est aussi une catastrophe environnementale. Aujourd'hui, on a créé une catégorie de catastrophes qui peut provoquer des migrations, mais certaines ont toujours existé. Donc, après cet exercice de carte, je voudrais passer à notre thématique rapidement pour voir en quoi ces nouveaux visages de la migration posent des questionnements au regard de la cohésion sociale. Et j'ai essayé de, partager ces migrations en catégories géographiques, ce qui était le plus simple, en essayant de m'interroger sur, par exemple, en quoi les migrations sud-nord posent des questions au regard de la cohésion sociale, et ensuite sud-sud, nord-nord, nord-sud. Alors sud-nord, je me suis dit, il y a tout d'abord la migration économique, c'est la plus nombreuse, les pauvres dans les pays riches, qui viennent comme main-d'œuvre, la féminisation de la migration, les mineurs non accompagnés, et ce phénomène va se poursuivre parce que les pays riches vieillissent avec des besoins de main-d'œuvre dans des secteurs très précis qui sont l'agriculture, qui sont les services, qui sont la garde des personnes âgées, qui sont le bâtiment, etc. Et également des secteurs plus qualifiés, mais mal pourvus, non pourvus, et des secteurs également très qualifiés. Donc, cette situation pose la question du vivre ensemble. Et à mon avis, l'enjeu des migrations, c'est moins de regarder ce qui se passe en termes de mobilité sur la planète, parce que ça a toujours existé. 3% de la population mondiale, c'est pas colossal au regard des inégalités criantes qu'il y a sur la planète, mais en revanche, la question du vivre ensemble est un enjeu autrement plus important que la question de la mobilité mondiale, à mon sens. Et la question du vivre ensemble pose la question de la cohésion sociale, donc de la lutte contre l'exclusion, de la lutte contre les discriminations, du dialogue avec les religions des migrants et notamment avec l'islam, puisque c'est de celui-là qu'on parle le plus, la question des formes de violence urbaine qui sont liées à toute une série de frustrations économiques et culturelles, les mutations de la citoyenneté, puisque la citoyenneté évolue sous le poids des migrations, elle devient plus transnationale, il y a de plus en plus de doubles nationaux, il y a des thématiques nouvelles qui s'imposent comme valeurs citoyennes, comme la lutte contre les discriminations, la question de la diversité, la question également de la façon de penser la citoyenneté dans un monde de plus en plus mobile. La citoyenneté a toujours été pensée par rapport à des sédentaires. Et on dit, c'est le rapport du PNUD qui dit ça en 2009, la mobilité est un facteur essentiel du développement humain. On voit que la mobilité est fortement entravée par les politiques migratoires, mais en même temps que les gens qui sont sédentaires ont infiniment plus de droits que ceux qui sont mobiles. Donc il va falloir penser les droits des gens qui sont mobiles, penser la citoyenneté des gens qui sont mobiles. Ça, c'est un enjeu de cohésion sociale, un enjeu essentiel pour le vivre ensemble. De même, la question du welfare, une des grandes réticences à la migration, c'est la question de la défense de l'État-providence, parce qu'il a été pensé dans un cadre étatique, pour des gens qui sont solidaires dans un cadre étatique, parfois un peu plus large à l'échelle de l'Europe. On aide les régions les plus pauvres, etc., mais ça ne va pas tellement au-delà. Donc penser la mobilité et l'État-providence dans un contexte plus large, c'est quelque chose qui n'a pas été encore véritablement exploré. la question des extrémismes aussi politiques, religieux, qui sont liés à toute une série de frustrations diverses, fait partie de la cohésion sociale. Les banlieues, la politique urbaine est au centre de cette préoccupation, et notamment toutes les poches de relégation urbaine et de difficultés de mixité sociale, difficultés de mobilité en termes de transport aussi. Tout ça, ça fait partie des questions sud-nord qu'il va falloir appréhender en termes de cohésion sociale avec ces migrations. Mais aussi, bien sûr, les questions de redéfinition des politiques migratoires dans ce sens, dans un contexte où, pour l'instant, ce sont seulement les pays d'immigration, les pays riches qui définissent les politiques migratoires, mais de plus en plus, les pays du sud s'intéressent à leurs migrants. Et ça, c'est nouveau. Ça aussi, c'est émergent. Les pays du Sud commencent à mener des politiques d'émigration à l'égard de leurs ressortissants, à travers l'acceptation de la double nationalité, à travers le soutien aux associations de la diaspora, à travers des politiques qui essayent de faciliter les transferts de fonds, les retours et des qualifiés, également une politique d'aménagement du religieux dans les pays d'accueil, les accords bilatéraux qui sont signés avec les pays d'immigration sont une illustration de la négociation qui se joue aujourd'hui sur ce terrain-là. Toutes ces politiques d'émigration font partie de la négociation à laquelle, de plus en plus, dans un esprit de cohésion sociale, les pays d'immigration devront développer à l'égard des pays du Sud qui sont en train de définir des politiques d'émigration pour essayer d'être moins faible face aux pays du Nord. Migration Sud-Sud. Tout à l'heure, on en a parlé. On a des migrations internes, on a des migrations internationales de main-d'œuvre. Et alors là, on n'est plus tellement dans le vivre ensemble, on est dans l'esclavage moderne. Donc là aussi, en termes de cohésion sociale, on est dans un défi majeur, la question du respect des droits sociaux minimums à l'échelle internationale. Les Nations Unies ont proposé une convention en 90 sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. Pour l'instant, il n'y a que 44 pays qui l'ont signée, tous du Sud, mais ils ont du mal à faire respecter la convention quand ils reçoivent des migrants chez eux. Ils l'ont signé pour leurs migrants au Nord, mais quand ils sont confrontés eux-mêmes à la question de la migration, c'est beaucoup plus difficile de faire respecter les droits sociaux. La question des camps aussi, migration de Sud-Sud. Là, en termes de cohésion sociale, il y a un défi majeur. La question des conflits ethniques, les questions d'urgence font partie de ces migrations Sud-Sud avec les déplacés internes, les déplacés environnementaux et toutes les situations de détresse que l'on peut rencontrer dans ce contexte. Migration Nord-Nord. Migration Nord-Nord, elle peut aussi poser des problèmes moindres, bien sûr, de cohésion sociale, puisqu'un exemple, c'est le Canada, qui est le pays d'accueil d'une migration plutôt de gens qui sont très sélectionnés, pas seulement du Nord, mais aussi du Sud, avec des permis à points qui prennent en compte essentiellement la qualification. Et là, on est dans des problèmes plutôt de concurrence sur le marché du travail et de risque de déqualification des très qualifiés comme primo-migrants. Parce qu'ils sont accueillis surtout en fonction de leur niveau d'études, mais ils ne s'insèrent pas nécessairement à ce niveau-là dans les pays où ils arrivent. Et ça, c'est un problème qui touche à la fois les réfugiés, y compris chez nous d'ailleurs, et les très qualifiés dans les pays qui ont mis en place des permis à points, comme le Canada, mais aussi l'Allemagne et quelques autres, et le Royaume-Uni. Donc la question de l'exode des cerveaux également, et la question de l'installation dans la mobilité comme mode de vie. Beaucoup de migrations nord-nord, dont font partie les migrations est-ouest en Europe, posent le problème de gens qui s'installent dans la mobilité comme mode de vie, mais avec des problèmes de cohésion sociale, parce que là, on reconstitue un système transnational qui peut être un petit peu communautaire en faisant abstraction, finalement, des frontières que l'on a traversées et en mettant l'accent sur le lieu de vie ici et le lieu de vie là-bas. Et pour finir, migration nord-sud, là aussi d'autres questions de cohésion sociale, la migration des retraités, la question du retour des qualifiés, le tourisme international qui n'est pas toujours en phase avec les sociétés des pays de départ et des déséquilibres démographiques très importants dans ces contextes, avec des fractures sociales fortes entre les riches qui viennent du Nord, mais aussi les nouveaux riches qui reviennent chez eux et qui s'installent dans ces pays de départ, dans une sorte de spirale migratoire qui défie les points de référence sociaux et culturels du passé. Donc, toutes ces questions de cohésion sociale ne sont pas seulement chez nous, mais elles sont dans le monde entier, dans des configurations diverses qui sont posées par tout ce qui s'est produit en termes de migration depuis ces 20 dernières années. La plupart des cas que je vous présente et que je vous ai montré à travers la carte, c'est des choses qui se sont produites en 20 ans et qui vont continuer à peser sur la façon dont on regarde les migrations au cours du 21e siècle.
Bon, je crois qu'on peut le dire, merci, les applaudissements en témoignent. Doublement merci, d'abord pour la clarté du propos, hein, et de nous avoir dressé un panorama aussi clair des migrations dans leur diversité, en bousculant des idées reçues, à commencer par celles qui voudraient que ces migrations internationales iraient systématiquement du sud vers le nord. Eh bien non, des pays du sud sont autant, voire plus concernés que des pays du nord. Merci de nous les avoir restitués dans leur profondeur historique. Les migrations internationales ne tombent pas du ciel, elles s'inscrivent dans des processus anciens. Et d'avoir, et c'est l'occasion aussi de rendre hommage effectivement à ce livre très important, La globalisation humaine, de nous avoir sensibilisés au fait que les migrations, c'est justement la face humaine de ces processus de globalisation qu'on a trop tendance à réduire à des flux financiers, économiques. Non, c'est l'affaire d'hommes et de femmes qui migrent, contraints de le faire, mais pour certains, parce qu'ils veulent le faire. Merci aussi, parce que vous êtes vraiment plié à l'exercice, vous avez vraiment répondu à la commande. Et parce que ce que vous nous avez dit, vous l'avez dit pour nous, et rien que pour nous, pour preuve, j'ai vérifié, dans l'index thématique de cet ouvrage, ne figure pas la notion de cohésion sociale. Alors, donc ça prouve bien que vous êtes saisi. Cela dit, vous traitez bien évidemment de ces enjeux dans un chapitre sur la citoyenneté revisitée. Alors une première question, j'en ai deux, mais je n'en formulerai qu'une pour privilégier les questions de la salle, c'est que, et j'aurais pu d'ailleurs le dire en préambule, vous êtes, au titre de cette expertise, sollicité par des organisations internationales, l'OCDE, Conseil de l'Europe, Commission européenne, etc. Et dans le prolongement de l'esprit du cycle, quel regard vous posez sur les acteurs infra-étatiques, comme par exemple des communautés d'agglomération, suivez mon regard. Est-ce que vous estimez que dans ce contexte de globalisation des migrations, ces collectivités, quand bien même elles n'auraient pas de capacité d'action sur la délivrance des visas, pourraient être quand même des acteurs pour peser sur l'évolution des politiques migratoires?
Oui, je pense que c'est une question à la fois difficile, mais qui est tout à fait actuelle. Et je pense qu'un des grands enjeux, c'est pour ces collectivités, c'est la diversité des migrations auxquelles elles sont confrontées et auxquelles elles vont être confrontées. C'est-à-dire qu'on a à la fois des gens qui deviennent de plus en plus, par le jeu du droit de la nationalité en France, des nationaux. Donc il faut considérer que ce sont des nationaux. Déjà, ça, c'est pas complètement acquis. Moi, je ne fais pas que des travaux internationaux. Je suis dans un centre d'études internationales, donc je fais plutôt de l'international, mais je fais aussi des choses sur la France, notamment des enquêtes de terrain. Aujourd'hui, on est dans une situation où une partie des Français considèrent que d'autres qui sont aussi Français, par leur carte d'identité, le sont moins qu'eux, ou ne le sont pas du tout. Et ça c'est un enjeu de cohésion sociale pour les collectivités essentielles. Faire en sorte que ces Français nouveaux, différents, visibles, sont aussi des Français comme eux. Ça c'est un grand enjeu de cohésion sociale qui passe par l'information, par l'éducation, par toute une série de politiques également de vivre ensemble précisément, qui ont du mal à parfois à s'épanouir dans un contexte de raidissement des pays européens face à la question migratoire, sur notamment l'idée qu'il y a une fracture au sein des États-nations entre certains qui seraient plus nationaux que d'autres. Donc ça, c'est un premier enjeu essentiel. Les Français venus d'ailleurs. Ensuite, il y a les nouveaux arrivés, qui sont souvent aussi des sans-papiers, parce que la fermeture des frontières fait que c'est difficile d'avoir un visa, on n'a pas toujours l'autorisation de travailler, etc. Ces gens sont souvent des gens qui contribuent à l'économie, qui travaillent, qui sont venus d'ailleurs pour ça, qui cherchent à avoir des papiers. Donc une politique, disons, d'ouverture à l'accueil de ces gens est quelque chose de très important, puisque aujourd'hui les régularisations des sans-papiers se font, comme on dit, au fil de l'eau, c'est-à-dire en fonction des politiques, des préfectures, et il y a beaucoup d'associations qui œuvrent d'ailleurs sur le juridique à préparer ces dossiers des sans-papiers qui font un travail magnifique. Il y a également les demandeurs d'asile qui attendent un statut. Certaines villes, je ne sais pas si c'est le cas de Poitiers, ont des centres d'accueil de demandeurs d'asile qui viennent de pays en crise très différents. Ça peut être des Tchétchènes, ça peut être des gens qui viennent de certains pays d'Afrique subsaharienne, des gens qui viennent du Sri Lanka, des gens qui viennent de des quantités de régions du monde qui d'ailleurs changent au fur et à mesure des conflits qui se déroulent sur la planète. Et là aussi, c'est un poids, bien sûr, pour les collectivités. Mais là aussi, je pense que l'accueil, ne serait-ce que matériel, en termes d'offres de logements faits à ces demandeurs d'asile, est un aspect tout à fait important. Et puis aussi, il faut regarder les catégories d'âge. La cohésion sociale, on l'a rappelé, passe par les classes d'âge, la question des jeunes notamment, des femmes seules, les mineurs non accompagnés, tout ça, ça fait partie des nouvelles migrations, des nouvelles figures de la migration qui se développent. Aujourd'hui, les femmes, c'est 50% de la migration à l'échelle de la planète. On a tendance à les oublier. Les mineurs non accompagnés, c'est un phénomène qui se développe considérablement aujourd'hui en Europe. Donc là aussi, il y a des politiques plus ou moins appropriées, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont très isolés dans leur catégorie.
Sans compter, mais je serai très bref parce que c'est l'objet
de... Les Roms aussi.
Pardon ?
Les Roms aussi.
Ah oui, bien sûr. Et ces migrants dits transnationaux qui s'installent par exemple à Poitiers, qui pour certains ont acquis la nationalité française, mais qui entretiennent une relation de fidélité avec leur pays d'origine et qui vont et viennent entre le pays d'accueil et le pays d'origine et qui à ce titre constituent une ressource précieuse pour des territoires, des communautés.
Fait.
Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Privilégions peut-être pour l'instant les questions de la salle. Voilà. Monsieur, n'hésitez pas à vous présenter. Le micro est pour vous.
Ouais, voilà. Donc, moi, je suis Famagan Konaté. Je suis de l'université de Bamako au Mali. Alors, je voudrais faire une petite intervention en ce qui concerne le caractère régional des migrations. Alors, si je prends le cas de la CEDEAO, qui regroupe 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, où il y a la mobilité des biens et la mobilité des personnes... Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un peu l'aspect méthodologique des migrations pour un Malien qui quitte, par exemple, le Mali pour aller au Burkina, il traverse simplement la frontière, ou bien il s'en va, n'eût été la situation en Côte d'Ivoire maintenant, on traverse simplement, on va faire le champ de coton en Côte d'Ivoire, on retourne au Mali. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un peu, n'est-ce pas, les questions méthodologiques par rapport à ces frontières-là qui ont tendance à être remodelés, n'est-ce pas, dans les cadres, n'est-ce pas, des regroupements régionaux. Ensuite, deuxième question que je voulais faire.
Excusez-moi, on est d'accord, il me semble que cette première question porte sur justement le problème soulevé par les migrants transnationaux.
Oui, hein, il me semble. Dans le cadre, bien sûr, de certains regroupements comme voilà, la CDAO, l'UMOA. Ensuite, maintenant, ce que je voudrais poser comme question, c'est par rapport à la cohésion sociale qui a été développée, mais par rapport maintenant aux zones de départ également. Je crois qu'il y a les migrations aussi, bien sûr, participent, n'est-ce pas, à des recompositions territoriales, participent à des recompositions sociales et autres là. Je voudrais que, n'est-ce pas, bien sûr... voilà, cette personne émérite puisse un peu nous édifier par rapport à ça. Je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions d'être venu de Bamako pour assister à la conférence, hein, bien sûr.
Merci en tous les cas de ces deux très bonnes questions. Alors sur les espaces régionaux, à l'échelle mondiale, ce que j'ai pas eu le temps de dire, c'est que je vous ai dit que les espaces étaient, les migrations étaient organisées en systèmes régionaux. C'est-à-dire qu'il y a plus de migrants qui viennent de la région que du reste du monde, à la région internationale. Et on a, à l'échelle mondiale, on a à peu près 22 espaces de libre circulation régionaux à l'échelle de la planète, sauf que la plupart ne fonctionnent pas. Le seul qui fonctionne bien, c'est l'Europe pour les Européens, le marché nordique du travail, tandis que l'ALENA ne comporte pas de mobilité des hommes. C'est la mobilité des biens seulement. Le Mercosur fonctionne pas très bien et la CDA, l'ASEAN non plus, compte tenu des conflits survenus dans les années 97-99. Et on a la CDAO qui avait été faite pour permettre entre 14 pays africains la mobilité des hommes, mais qui, depuis les conflits qui sont survenus entre certains pays, s'est refermé sur des frontières relativement étanches dans les zones de conflit. Alors, c'est vrai que dans le passé, les gens du Burkina allaient travailler en Côte d'Ivoire, qu'un certain nombre de Sénégalais diplômés allaient travailler en Mauritanie, dans l'administration, mais l'ivoirité d'un côté, les définitions ethniques de plus en plus de certains pays africains a ruiné d'une certaine façon l'espace de libre circulation qui s'était installé depuis la fin des indépendances, puisque c'est ancien, la CDAO, et aujourd'hui il faudrait précisément remettre à l'ordre du jour la CDAO pour qu'elle fonctionne véritablement dans des conditions satisfaisantes entre les 14 pays qui la constituent. Alors sur donc ça c'est pour l'espace régional un autre élément aussi pour cette mobilité, c'est qu'elle est aussi également hypothéquée par la pression des pays européens qui demandent aux pays de départ de reprendre leurs sans-papiers, mais aussi à des pays voisins comme le Maroc de verrouiller leurs frontières au sud. Donc là aussi, ça ruine un peu les relations entre les pays du Maghreb et les pays d'Afrique subsaharienne quand ils ont signé des accords bilatéraux de reconduction à la frontière et quand ils s'engagent à fermer leurs frontières au sud. Donc tout ça hypothèque beaucoup les espaces régionaux de libre circulation. La deuxième question, c'était sur le... Mais je crois que j'y ai un petit peu répondu sur les recompositions sociales, mais peut-être trop rapidement.
Territorial.
J'ai donné l'exemple des spirales migratoires en disant que les nouveaux riches qui sont revenus dans leur pays ou qui viennent surtout d'ailleurs en migrants alternatifs, si j'ose dire, migration d'aller et retour, changent, bouleversent très souvent les points de référence culturels et sociaux des pays de départ. Il y a une très bonne thèse qui a été faite récemment par un Sénégalais sur la vallée du fleuve Sénégal, précisément, et qui montre que, précisément, comme ils ont beaucoup plus d'argent que ceux qui sont restés chez eux, ben, les régions de départ où il y a des départs de migrants sont beaucoup plus riches que celles où il n'y a pas de départ de migrants, et que ces migrants qui reviennent quand ils ont, entre guillemets, réussi, peuvent s'offrir un niveau de vie et un mode de vie qui ne correspond plus du tout aux catégories sociales les plus aisées auparavant. Et donc là, il y a un vrai bouleversement des relations sociales entre les uns et les autres.
Sauf s'il y a une question, On pourrait peut-être, je voulais savoir si ce que vous avez dit en réponse à la première question de monsieur valait aussi pour l'Europe ou aussi, pour... Voilà,
oui, hein. ça vaut aussi pour l'Est, parce que je vais essayer de vous trouver une carte pour l'Est. Voilà. Là aussi, il y a une pression européenne pour... voilà, je vais donner un exemple ici. Voilà, l'Europe fait pression sur la Russie, par exemple, pour qu'elle... contrôle ses frontières, ce qui n'est pas très facile, c'est un très grand pays, avec ses voisins du Sud, c'est-à-dire les nouveaux pays indépendants qui étaient les républiques musulmanes, comme on disait, et notamment qui sont des zones où il y a beaucoup de mobilité. Il ne faut pas oublier que la Russie est un grand pays d'immigration. Il y a à peu près 13 millions de migrants en Russie qui viennent essentiellement comme main d'œuvre. Donc ils viennent de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kyrgyzstan, du Kazakhstan. Ils vont surtout travailler à Moscou et Saint-Pétersbourg, mais aussi certains pays de départ sont devenus des pays d'accueil. Par exemple, le Kazakhstan est aussi une terre d'accueil pour les Ouzbeks qui vont y travailler, ou pour les Tadjiks, ou pour les Kyrgyzes. Il y a une forte pression européenne pour qu'ils verrouillent leurs frontières avec ces pays, pour pas qu'ils viennent en Europe. Et la Russie, comme le Maroc d'ailleurs, est plutôt hostile à l'idée de signer un accord avec l'ensemble de l'Union européenne, parce que elle dit on veut garder des bonnes relations avec nos voisins, pour des raisons commerciales, économiques, culturelles, politiques et de facilité de circulation. Il ne faut pas oublier que les gens de ces pays n'ont pas besoin de visa pour se rendre en Russie et ne veut pas, au prix de la pression européenne, sacrifier ses relations avec ses voisins. C'est un peu comme pour l'Afrique. Le Maroc est un des pays qui a refusé les accords de réadmission avec l'Union européenne sur l'argument qu'il ruinerait ses relations avec l'Afrique subsaharienne s'il signait ces accords. Donc on a exactement le pendant de la politique de verrouillage des frontières au sud, de garde-frontières finalement, que l'Europe demande à assumer à ses voisins du sud et de l'est.
Question, monsieur, le micro.
Bonjour, j'avais une question concernant notamment les migrations intra-régionales en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc ces pays, Sénégal, Mali, sont aussi confrontés aux questions de cohésion sociale, parce qu'il y a des passages de frontières. J'aimerais
Tout
savoir si vous avez des exemples, des éléments concrets de pratiques.
Je connais un exemple, parce qu'il y a une thèse qui a été faite dessus, sur le Maroc. Le Maroc aujourd'hui est devenu un grand pays de transit et d'immigration, puisqu'il est dans une zone, disons, sensible. D'une part, il y a la proximité de Gibraltar, mais les gens passent moins par Gibraltar aujourd'hui que par les îles Canaries, qui sont plus au sud. Et puis également, le Maroc, c'est aussi le voyage au long cours des gens qui viennent de Mauritanie et qui passent par le Maroc pour essayer de passer en Espagne. Au Maroc, la question, on ne parle que des migrations de transit aujourd'hui subsahariennes et transsahariennes, parce que ça agite beaucoup le pays en termes de transformation des relations avec ces populations qui initialement avaient le projet de traverser le Maroc et puis d'aller en Europe, mais comme les frontières sont fermées avec l'Europe, et ils restent. Et donc aujourd'hui, le Maroc a beaucoup de mal à gérer une population qui pensait bouger, transiter, mais qui s'installe par nécessité, soit en attendant de pouvoir passer. Il ne faut pas oublier qu'il y a un mur à Ceuta, il y a déjà eu des morts, et le Maroc a des consignes européennes de plutôt garder ces gens au Maroc et faire en sorte qu'ils ne passent pas de l'autre côté. Pour le Maroc, en termes de cohésion sociale, c'est un vrai sujet, parce qu'il y a du racisme, parce qu'il y a des poches d'exclusion, parce qu'il y a parfois des affrontements entre les populations, parce que les Marocains sont pas du tout habitués à avoir des gens qui avaient vocation à circuler et qui s'installent finalement dans un pays qui n'est pas tellement riche quand même dans certaines régions traversées.
Micro pour la postérité.
Le pendant à cette question, c'était notamment la question du retour des migrants, et je pensais notamment aux migrants qui viennent en Europe, qui reviennent à la retraite ou avant avec un projet notamment économique ou vers la famille.
Là aussi, il peut y avoir des questions.
Et aussi des migrations de retour qui sont liées notamment à des conflits comme la Côte d'Ivoire, vers le Sénégal, vers le Mali.
Voilà. Est-ce que c'est une question, excusez-moi, est-ce que c'est une question d'un chercheur du Migrinter? Parce que Poitiers a la chance quand même.
Oui,
aussi,
absolument. Hein,
voilà, on pourrait en dire.
Pas encore, je l'espère un jour. Mais...
Alors, la question des retours, effectivement, peut poser quelques questions, parce que ça, c'est plutôt les travaux d'enquête hein, qui me font dire ça. Il y a des gens qui ont travaillé sur le retour des retraités. Les retours ne sont pas très nombreux, il faut quand même dire les choses. Et le retour à la retraite est une forme de retour assez fréquente. Mais en même temps, ce retour peut bousculer des habitudes familiales. D'une part, le retraité qui a une petite retraite ou une moyenne retraite, il vit beaucoup mieux. Donc là aussi, ça bouleverse les catégories sociales. Même s'il a été ouvrier dans l'industrie automobile, par exemple, il a une belle maison qu'il a construite année après année. Et donc, dans le village, ça va bouleverser les points de repère sociaux. D'autre part, sa femme ne viendra pas nécessairement avec lui parce qu'elle préfère parfois rester dans le pays d'accueil avec ses enfants que être sous la coupe de la famille, et habitude qu'elle a complètement perdue. Et puis, parfois, elle est plus attirée par la vie urbaine que retourner à la campagne dans un coin qu'elle considère comme un peu perdu. Donc, il va parfois prendre une autre femme aussi. On a des phénomènes, des exemples comme ceux-là. La migration bouleverse beaucoup de catégories. Par exemple, les phénomènes de polygamie qu'on considère à tort en France comme un phénomène traditionnel, ce qui est en partie vrai, sont liés aussi à l'argent du migrant par rapport... Souvent, les migrants n'ont pas dans leur famille beaucoup de polygames parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais c'est quand ils sont, grâce à la migration, qu'ils peuvent devenir polygames et donc donner un gage de respect d'une certaine tradition sociale à leur famille. Donc c'est plutôt la migration qui bouleverse des comportements sociaux que le respect d'une tradition. Alors pour les migrants de retour, il y a beaucoup de choses sur les déplacés des conflits, qui sont des études qui sont faites par l'Organisation internationale des migrations, qui ont beaucoup travaillé sur la réinstallation des personnes déplacées ou des réfugiés, et qui essayent de les réinstaller chez eux. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'ex-Yougoslavie, par exemple, ou sur quelques autres exemples de migration. Est-ce que ça bouleverse? Les pays ont été tellement bouleversés que je ne suis pas sûre que là, on se pose des questions de cohésion sociale. On n'en est plus tellement là, même pour la Côte d'Ivoire.
Une question, voilà. Alors, au fond, voilà, deux questions au choix. Voilà, je laisse à Virginie et on revient vers vous à la fin.
Bonsoir. Donc, je fais partie des Amis de la Terre, François Chagnal. Et les Amis de la Terre se sont penchés justement sur le sort réservé aux déplacés environnementaux. Vous avez relevé parmi les causes des migrations, bien sûr, le choix, le libre choix, ça c'est très bien. Et on ne peut accueillir les migrants, de toute façon c'est un devoir, c'est une richesse, pas question de verrouiller les frontières. Mais quand il s'agit de migrants qui n'ont pas fait le choix de partir, mais qui ont vraiment dû obéir à une nécessité, là il y a une véritable souffrance dans leur histoire. On peut essayer de, non pas seulement de décrire les phénomènes, mais d'essayer de comprendre et d'essayer de prévenir peut-être aussi, si c'était possible, ce genre de souffrance.
Si c'est une question...
Non, j'ai autre chose à dire.
Il faudrait excusez-moi, le temps presse, oui. Il faudrait privilégier peut-être la question.
Je fais vite. Le plus vite possible, c'est pour ça
non,
que...
Non, c'est pas de faire vite, c'est pas un discours que je souhaite, c'est une question, si vous voulez.
Oui, il faut que je la cadre, ma question. Donc, vous avez dit des désertifications, déforestations, appauvrissement, il faudrait ajouter aussi appauvrissement de l'agriculture.
Oui, bien sûr.
Par la concurrence avec les agricultures industrielles. Ce sont les paysans, souvent, qui sont obligés de partir, poussés par la faim, ce qui est un comble. Et ce que je voudrais, c'est qu'on ajoute à ces causes une nouvelle cause, c'est le nucléaire. On est en train d'accueillir en France des Japonais. C'est très bien de les accueillir. Mais on pourrait peut-être aussi essayer de réduire tous ces facteurs qui, tôt ou tard, seront des facteurs d'émigration non choisis.
Oui, environnemental, donc.
Tout à fait, mais ça, je pense que tout le monde peut être d'accord avec vous sur ce point-là. Ce qu'il faut voir, c'est que les réfugiés, enfin les déplacés environnementaux, puisqu'ils n'ont pas le statut de réfugiés, même si ce sont en partie des migrations forcées, ne sont pas toujours que des migrations forcées, ce que j'ai essayé de dire au début, parce que beaucoup anticipent le départ. Par exemple, je prends un exemple, les îles Tuvalu. Les îles Tuvalu, c'est à côté des îles Fidji dans le Pacifique. Elles sont à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer et donc sont fortement menacées par l'élévation, je crois que c'est même 3 mètres au-dessus de la mer. Et c'est un archipel, 9500 habitants et fortement menacé par la montée des eaux. Certains ont déjà, qui sont tout à fait conscients, la population est tout à fait consciente des risques qui sont posés non seulement à la population, mais à l'existence de l'État. Parce que si Tuvalu est envahi par les eaux, il n'y a plus d'État. C'est un petit État, certes. Alors, les Nations Unies leur attribuent un autre territoire, mais avec la difficulté de trouver une île déserte, ce qui est quand même difficile aujourd'hui. Soit certains sont déjà partis, et ils sont partis essentiellement en Nouvelle-Zélande. Donc ils ont anticipé, si j'ose dire, la catastrophe finale qui serait l'engloutissement par les eaux. Donc dire que la migration environnementale est uniquement une immigration forcée ne correspond pas aujourd'hui complètement à la réalité. Un autre exemple, les îles Heligen, qui sont au nord de l'Allemagne, près du Schleswig-Holstein, qui sont l'enfouissement d'une partie de l'Europe qui est tombée dans la mer. Et il y a une partie immergée qui sont les îles Heligen. Au Moyen-Âge, ça s'est produit. Et les gens, au contraire, ne veulent pas partir. Donc il ne s'agit même pas de migration forcée, ils disent, nous on construit une digue, l'Allemagne est un pays relativement riche, donc qui essaye de prévenir la catastrophe avec une digue extrêmement protectrice, et là il n'y a pas de départ. Donc les problèmes environnementaux ne produisent pas nécessairement des départs, et pas nécessairement des départs forcés. Si on prend par exemple ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans, le cyclone Katrina, malheureusement pour les plus pauvres, ils ne sont pas partis, ils sont restés sur place parce qu'ils n'avaient pas les moyens de partir, ils n'avaient pas de voiture, etc. Donc les plus pauvres sont restés sur place. Donc en fait, il n'y a pas toujours de migration forcée avec des problèmes environnementaux.
En tout cas, je m'empresse de remercier Madame pour son intervention. Je l'ai un peu pressée, je vous prie de m'en excuser. Mais j'ai apprécié votre intervention parce qu'elle illustre le fait que finalement, ces migrations internationales sont une affaire devenue trop sérieuse pour la laisser aux seules organisations internationales, aux seules organisations étatiques, et que la société civile, à travers vous, à travers votre association et d'autres, s'est aussi saisie et a déployé une expertise profane sur ces questions.
Oui, très important. Non, mais je pense qu'il y a une implication de plus en plus forte, vous en êtes les exemples d'ailleurs, de la société civile dans la question migratoire sous différentes formes. Ça peut être la prise en compte de grands enjeux, comme vous le faites, et la tentative de déployer des actions sur ces enjeux et pour essayer de les limiter, mais aussi la prise en compte des personnes, de leur statut juridique. Par exemple, beaucoup d'associations d'aide aux migrants aujourd'hui s'occupent du statut des migrants, notamment sans papier. Il y a des quantités de formes d'aide qui existent, par exemple pour les mineurs non accompagnés. À Sangatte, il y a des quantités de solidarité qui se sont déployées. Donc il y a beaucoup, beaucoup de prise en charge de la société civile tout le monde n'est pas nécessairement hostile à cette situation, et la cohésion sociale dépend beaucoup aussi de l'implication de la société civile dans cette question migratoire sous ses différentes formes.
Et avant de prendre la toute dernière question, comme vous ne l'avez pas rappelé, je le fais, vous êtes aussi expert externe auprès du Haut Commissariat. Auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, tout ça pour dire que vous êtes aussi en prise avec cette autre réalité des migrations.
Bonsoir. Est-ce que ça marche ? Oui. Bonsoir.
Une question.
Dans les incitations à la migration, il y a. En tout cas, dans les villages africains, au Niger, dans les années 70-80, sur la télé centrale de chaque village, était diffusé le feuilleton Dallas. Peut-être que ça contribue, ça incite les gens à voyager.
C'est ce que vous disiez. Oui.
Et récemment, j'écoutais des Béninois à qui il était demandé où est-ce qu'ils auraient envie de migrer, parce qu'ils avaient envie de migrer. Et bien, la plupart disaient plutôt Canada, États-Unis et pas beaucoup la France. Peut-être parce que quand ils entendent les infos sur ce qui se passe en France, ça ne les attire pas trop. Peut-être qu'ils suivent même les résultats des élections cantonales. Bon, s'ils sont footballeurs, peut-être qu'ils ont beaucoup plus de chance, parce qu'apparemment, on est moins fine gueule là-dessus. Mais moi, je voulais donner deux exemples sur l'intégration ou la difficulté d'intégration.
Et la question ?
Et il n'y en aura pas, pour aller plus vite. Deux exemples, parce que j'ai aussi envie de faire apparaître des choses peut-être encourageantes. Dans ma rue, il y a deux habitants qui ont une couleur de peau beaucoup plus sombre que la moyenne française. Je ne dis pas blanc ou noir, parce qu'on a tendance à dire les gens de couleur, mais pour moi, blanc, c'est une couleur aussi. Donc je ne comprends pas pourquoi on dit les gens de couleur. Mais l'un d'eux a invité les gens de la rue à manger une soirée style repas entre voisins. Et je trouve ça hyper courageux et une excellente initiative pour favoriser du lien entre des personnes qui sont de la même rue, mais qui sont originaires de différents endroits du pays, de la planète. Et puis l'autre, c'est que dans des lieux touristiques, on trouve des objets souvenirs, entre autres des bols, sur lequel il y a le prénom. Alors on trouve très facilement Catherine, Isabelle, Roger, François. On trouve beaucoup plus difficilement Mohamed, Rachida, etc. Et c'est aussi, j'essaye d'illustrer le fait que...
Juste ma question, ma préoccupation. Je vous remercie.
Oui, c'est une très très bonne question. Il y a beaucoup de confusion dans les politiques sélectives de l'immigration qui sont très à la mode en Europe notamment, ces politiques sélectives ont tendance à sélectionner surtout les qualifiés, surtout les très qualifiés, ou les gens qui ont des profils, ce qu'on appelle capacité et talent. En réalité, en France, pour parler de notre pays, on a dans la loi 2006, la loi Sarkozy, une carte qui s'appelle capacité et talent. Mais en fait, cette carte est tellement restrictive dans les catégories qu'il y a très peu de gens qui peuvent bénéficier de cette carte. Et il faudrait être un joueur de football de très haut niveau, un créateur de très haut niveau, un artiste de très haut niveau, quelqu'un qui a un niveau un chercheur d'exception pour bénéficier de cette carte. Donc elle a été placée un niveau tellement élevé que très peu de gens entrent dans la catégorie, donc elle est mal ciblée. Et puis l'autre problème, c'est qu'on a donné trop peu de temps aux étudiants par rapport à beaucoup de pays voisins, et aux États-Unis et au Canada, la possibilité de travailler. Beaucoup d'étudiants ne peuvent travailler que pendant un an après leurs études. Donc si on veut attirer des qualifiés, il serait plus logique de leur donner davantage de temps, ou même de leur donner la possibilité tout court d'accéder au marché du travail. Et beaucoup d'étudiants sans papier sont aussi des gens qui ont travaillé illégalement, à qui on a retiré leurs papiers parce qu'ils étaient considérés comme étudiants, ou alors parce que leur cursus d'études n'était pas accompli, ensuite ils se sont installés dans la clandestinité. Donc ça, c'est une vraie contradiction, si j'ose dire, de la politique migratoire, d'autant plus qu'on n'a pas seulement besoin de qualifiés et de très qualifiés, mais on a aussi besoin de non-qualifiés. Et aujourd'hui, dans la plupart des pays, pas seulement de l'Europe, de l'OCDE, le directeur général de l'OCDE, qui n'est pas un homme d'extrême gauche à ma connaissance, dit qu'on n'arrive pas, dans tous ces pays de l'OCDE, à donner un statut aux métiers les moins qualifiés. La plupart des métiers les moins qualifiés sont tenus par des sans-papiers parce que les pays d'accueil n'arrivent pas à faire accepter à leur opinion publique qu'on a besoin de métiers peu qualifiés ou très peu qualifiés et qui sont l'essentiel des besoins émergents liés au bâtiment, l'agriculture, le vieillissement des personnes, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet de société qui fait partie de la cohésion sociale.
Alors surtout, ne repartez pas frustrés, vous connaissez l'esprit, le principe, hein, c'est de poser un certain nombre d'éléments de réflexion que vous pouvez poursuivre à la lecture des différents ouvrages de Catherine Vitol de Vindel, à commencer par l'Atlas mondial des migrations, la nouvelle édition qui date de 2009, qui reste d'une grande actualité malgré les bouleversements intervenus.
Qui va être réactualisé d'ailleurs.
Pardon ?
Qui va être réactualisé cette année.
Voilà, d'accord. Par ailleurs, la globalisation humaine auquel il faut rendre justice, parce que c'était un ouvrage qui rendait compte du fait que l'émigration internationale, c'est le visage humain de cette globalisation économique, avec ses défis, ses problèmes, mais aussi ses ressources, ses perspectives d'avenir. Et enfin, le tout nouveau, la question migratoire au XXIe siècle, où vous interrogez, où vous montrez comment les nouvelles migrations questionnent la souveraineté des États, et dont la prochaine édition comportera dans son index thématique une entrée cohésion sociale et Poitiers. Sans plus tarder la parole à Jeanne Renaud pour qu'il nous dise ce qu'il tire de cela pour les réflexions dans le cadre du Conseil de développement et quelques mots d'explication sur cette fameuse feuille que
j'espère tout le monde a. D'abord, un très grand merci à vous, madame, parce que vraiment, en très peu de temps, vous nous avez apporté vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Merci. C'est vraiment très agréable. Et c'est tout à fait la fonction de ces conférences. Juste un mot pour vous expliquer un peu la raison d'être du petit papier que vous avez sur vos chaises, normalement. Et si certains ne l'avaient pas, vous signalez, parce qu'il y en a encore quelques-unes devant. On organise, le Conseil de développement responsable de Grand Poitiers organise le 9 mai un forum des acteurs sur les questions de l'accueil. Alors vous me direz, l'accueil, ça ne concerne pas que les migrants. N'empêche que, hormis un certain nombre d'interventions qui seront faites pendant cette soirée, on a aussi un fonctionnement en trois ateliers, dont un sur ce qu'on a appelé la diversité, c'est-à-dire ce dont on vient de parler ce soir, vraiment qu'est-ce qu'on peut faire en matière de politique locale sur des sujets aussi importants que celui qui vient d'être traité ce soir. On aura un deuxième groupe sur la question des étudiants. Il en a été question tout à l'heure. Donc là aussi, qu'est-ce qu'il faut dans un climat de concurrence de plus en plus grande entre les jeunes? Vous savez que maintenant, les villes européennes, mais même, je pense, toutes les villes des pays développés se font de la concurrence, font de la concurrence auprès des étudiants pour les attirer chez elles. Donc ça, c'est quelque chose qui est devant nous. Et il faut qu'on y réfléchisse et qu'on sache un petit peu ce qu'on va y faire. Et enfin, comment on construit un troisième groupe qui travaillera sur les questions de l'accueil vraiment tout public. Il faut que vous sachiez que sur Poitiers, 34% des gens qui habitent ici à Poitiers aujourd'hui n'étaient pas là il y a seulement 5 ans. Et quand on s'est renseigné auprès de nos autres petits camarades des autres conseils de développement, on s'est tout simplement rendu compte que c'était pratiquement le cas partout. C'est-à-dire qu'il y a un gros tiers de la population qui est très mobile, et partout, pas à Poitiers spécialement, mais dans toutes les villes de France et d'Europe. Voilà. Je vous remercie et vous invite. Alors la seule contrainte que vous avez, c'est de vous inscrire auprès du Conseil de développement, parce que ça suppose un peu de logistique, des rencontres comme ça, et on a déjà la participation d'un certain nombre d'élus, et en plus on aura la production d'un portrait de territoire sur ces questions-là, qui sera distribué à cette occasion. Voilà, merci à vous et bonne soirée.